Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Chers auditeurs, bonjour, avec Aline Thomazin et Jean-François Ladjé.
Bonjour à tous.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, cette fois je le dis bien, Sébastien.
Tu le dis très bien. Merci. Et alors chères auditrices, chers auditeurs, nous allons laisser de côté cette fois-ci le casque, l'appel, la pioche pour la visite verticale de la ville et on va peut-être prendre un petit delta plane et on va cette fois-ci continuer un survol de certains quartiers pour voir cette ville au 6e, 7e siècle, à l'époque des Mérovingiens. Et donc, nous avons évoqué la dernière fois le secteur Esquirol-Carme, ou plutôt Esquirol surtout.
Esquirol, Carme, pas vraiment.
Un petit peu, simplement pour vous dire que...
On ne va pas se positionner avec un drone, on va quand même descendre.
je vous propose de faire les deux.
Moi, j'aime bien le drone.
Faisons les deux. On avait terminé avec les Carmes et je vous ai simplement signalé que le Cardo Maximus antique, hein, donc qui aujourd'hui est à 3 mètres sous nos pieds.
Peut-être pour nos auditeurs, rue Pharaon, rue des Filatiers,
ouais, c'est ça.
Rue des Changes, rue Saint-Rome.
Voilà, le Cardo Maximus. Actuellement, si on remonte de 3 mètres pour accéder au sol actuel, il était à peu près sur cet axe-là. Je dis à peu près.
Hein. Oui.
Il y a eu des déformations. Bon, bref.
Mais je pense qu'on a dû trouver les goûts collecteurs aussi.
Tout à fait,
c'est ça. Qui doit donner l'axe de la rue.
Et notamment au niveau des Carmes, on sait qu'on a retrouvé le collecteur d'égouts.
Oui, c'est ça.
Voilà, qui était peut-être, sous les Mérovingiens, au 6e siècle, le seul collecteur qui subsistait vraiment. Puisque les archéologues ont vu que tous les collecteurs secondaires, c'est-à-dire les égouts qui venaient se rattacher à l'égout principal, étaient déjà hors d'usage.
Ah oui.
Voilà. Après, prenons un drone, pour Sébastien. transportons-nous vers l'hôtel d'Assisa. Vous savez, à l'arrière, à un moment donné, il y a eu des constructions. Ouais. Donc, qui dit nouvelle construction, dit fouilles archéologiques. Là, si on se transporte... Pour Aline, on va se transporter d'abord au 1er siècle. Là, il y avait une grande domus, une grande villa, on pourrait dire, hein, avec jardin, avec portique, bassin, etc. Bon, tout ça disparaît au plus tard au 5e siècle. Et par-dessus, dans ce qu'on trouve... il y a quand même... a été fouillée une portion d'un décumanus secondaire, c'est-à-dire d'une voie est-ouest, secondaire, donc qui passe dans le coin, avec des galets. Vers 300, le secteur est totalement réaménagé. Et puis, sous les Mérovingiens, au 6e siècle, l'égout de cette voie est-ouest est abandonné, comme je viens de dire, et il est remplacé par un fossé. Donc, on voit déjà le paysage de la ville se modifier. Hein, cette ancienne rue donc, qui est remontée, il y a un fossé et tout le long, il y a des fosses. C'est-à-dire que vraiment, on est sur une idéalité, si je puis dire, beaucoup plus rudimentaire qu'on ne l'était, y compris en termes d'hygiène, en termes d'habitat.
Elle a à Toulouse duré très longtemps.
Oui.
Je rappelle les grandes... L'opération de construction des égouts, si j'ai bonne mémoire, doivent dater des années 60.
Oui, après-guerre.
1960.
Oui, après-guerre, en effet. Alors, reprenons un drone.
Ce n'était pas les mêmes qu'à l'époque.
Non, bien sûr, mais quand même le système
le concept restait, était le même.
ça restait assez rudimentaire, oui, tout à fait. C'est très juste. Reprenons le drone, vers les fouilles archéologiques préalables à la construction de la station de métro Capitole.
Ah oui. Hein,
donc on est dans ce coin-là. là, pareil, un peu comme à l'hôtel d'Assisa, une demuse du 1er siècle.
Mais donc, toujours intramuros, là.
Intramuros, Donc là, pour le coup, pas très loin du rempart. Hein, c'est-à-dire que je vous avais dit que...
Le rempart est Square de Gaulle, à peu près.
Comment ?
Il passe au square de Gaulle,
oui,
le rempart,
il est
identifié.
De Gaulle,
là,
voilà. Et donc, quand même, tout près de ce rempart, il y a quand même une villa. C'est-à-dire, quand je vous avais dit que le rempart pouvait être un peu éloigné de l'habitat, c'était d'une manière générale. Mais il y a des cas, on voit que quand même, le damier romain pouvait quand même, à la grande époque de la Pax Romana, la ville, vraiment l'habitat, pouvait aller jusqu'au mur. Bon. Tout ça disparaît déjà au IVe siècle. Donc on voit déjà qu'il y a des événements qui font que la villa disparaît et qu'à son emplacement, on trouve des constructions beaucoup plus modestes. Bois, torchis, réutilisation de morceaux de maçonnerie. Voilà. Et là, on est sous les Visigoths. On est au Ve siècle.
Et des activités artisanales dans ce secteur aussi.
Voilà. Et pour la période qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire les Mérovingiens, 6e, 7e siècle. Vous vous rappelez, quand on avait évoqué de quoi vivent les habitants, j'avais dit quelques artisans.
Oui.
Pas forcément avec un rayonnement international. Mais là a été retrouvé un atelier de verrier avec des fragments de ce qu'on appelle les lingots de verre, des déchets aussi, qui font que du coup, là, il y a une activité verrière. Peut-être une petite parenthèse pour dire que cette production de verre à Toulouse, pour moi qui suis un passionné de verre, de vitraux, etc. À l'époque, on n'en est pas là, mais depuis l'Antiquité, y compris à Vieille Toulouse et à Saint-Roch, on avait déjà trouvé des ateliers de verriers. Donc c'est une production qui, même si elle est limitée, même si elle est locale, prend une forme particulière sous les Visigoths, au Ve siècle, donc sur les dessins les profils dans des coupes à boire, hein, des gobelets. Il y a des décors particuliers à Toulouse. Et sous les Francs, en fait, ce décor précédent, il est généralisé dans la vaisselle qui a été retrouvée.
Il perdure.
Il est généralisé. C'est-à-dire que vous voyez, sur le plan culturel, il n'y a pas forcément une coupure.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire, les Visigoths s'en vont, les Francs arrivent, c'est-à-dire les chefs, on va dire. Mais après, dans la culture locale, dans les productions, vous voyez, il peut y avoir une continuité, à tel point d'ailleurs que vers 500, toute la vaisselle qui est retrouvée, que ce soit Place Saint-Étienne, que ce soit à Esquirol, que ce soit à François Verdier, c'est-à-dire partout où il y a eu des fouilles archéologiques, y compris dans la région, comme à Saint-Bertrand-de-Comminges, on retrouve les mêmes décors.
Voilà. Continuité de production, oui.
Donc une activité, ah oui. Une activité de production. Voilà. Sans doute ouais. De verre et de poterie.
Alors, il y a aussi des fours de potier, tout à fait. Mais là, donc, Square de Gaulle, on trouve un atelier de verrier très intéressant. On reprend le drone, on retourne côté rue Gambetta, l'ancien hôtel de Malleprade, derrière les arcades côté sud. Et là, la fouille conduite dans les années 90, préalable à la réalisation d'une opération immobilière, on est toujours en bordure de rempart. D'ailleurs, on est de chaque côté. Enfin, la fouille a concerné les deux côtés, intramuros et extramuros. Et côté intramuros, on trouve des puits et des fosses dépotoirs. Voilà. Dès le IIe siècle, on trouve un bâtiment à poteaux de bois avec des fours et des amphores. Hein, donc, à Lignes, atelier de potier.
Ah oui.
Voilà. Et par-dessus, c'est-à-dire on change d'époque, voilà, un autre édifice de briques, et lui-même recouvert d'une couche de gravats, donc sur lequel était construit un bâtiment daté du tournant du VIe siècle, des années 500. Donc vous voyez, on a déjà, par rapport à notre échelle là, notre escalier dans la cave, on est déjà un peu remonté. Hein, je vous avais dit un bon mètre par rapport aux Romains.
Ça veut dire qu'il y a quand même de l'activité, que la ville continue de se construire sur
les vestiges de l'ancienne. Elle se reconstruit sur elle-même. Elle n'est pas aussi florissante que du temps de la Pax Romana et probablement du temps des rois visigoths.
Il n'y a plus de très grands édifices.
Il n'y a plus de très grands édifices, mais pour autant, cette ville qui reste assez peu connue, vous vous rappelez l'expression de Philippe Wolff, les temps obscurs.
Oui.
Mais pour autant, elle est quand même habitée. Moi, je trouve très, très touchant.
Il y a de l'activité.
Très émouvant le fait de penser que ces gens ont laissé peu de sources, on les connaît mal, et pour autant, il y a quand même eu de l'activité, les gens ont vécu.
La ville a vécu.
Ville a vécu. Et Sébastien, je te propose peut-être de changer de secteur pour aller vers Saint-Étienne.
Eh bien, il nous reste 2 minutes pour aller vers
Saint-Étienne. Allez, bah, finissons. Aller envers Saint-Étienne. Bon, là, j'ai déjà cité les travaux de Kitricaz à propos de ce quartier-là pour les périodes précédentes. Mais là, c'est un peu pareil. Dans le quartier autour de la cathédrale, elle avait relevé dans la création d'une nouvelle voie, c'est-à-dire d'un nouveau quart d'eau secondaire, qui est sans doute à mettre en rapport avec les premiers édifices religieux, c'est-à-dire le moment où il y a un évêque à Toulouse. Quoi. Voilà. Et donc une première cathédrale. Alors, est-ce que c'est Saint-Étienne? Est-ce que c'est Saint-Jacques? Saint-Jacques étant enfoui sous l'église Sainte-Anne actuelle, hein, la chapelle Sainte-Anne. Donc dans tout ce quartier-là, elle repère une nouvelle voie assez monumentale, voilà, qui perdure. Hein. Donc on la retrouve un siècle plus tard dans, sous les Visigoths. Elle reprend le même axe, mais elle est déjà réduite. Hein. Je vous avais dit, on l'a vu vers la rue des Tourneurs, là, sous les Visigoths, hop, on réduit de moitié.
Et alors, est-ce qu'on a une explication? Est-ce qu'on a une explication?
Ben, encore, les pouvoirs publics ont moins d'argent, moins de pouvoir, moins de pouvoir d'obliger les gens à respecter des alignements.
Oui.
Le Sénat municipal, je vous ai dit, on ne sait pas trop à quel moment il a... Le Sénat municipal, je vous rappelle, c'est l'équivalent de la mairie. Hein.
Oui,
voilà.
La gouvernance de la ville.
La gouvernance de la ville, donc plus trop de pouvoir. Et là, c'est pareil. Au VIe siècle, sous les Mérovingiens, ben, force d'empiètement, on a une rue qui est encore moins large, c'est-à-dire qu'on est à peut-être 4 mètres, pas plus, et surtout un tracé qui est devenu sinueux. Vous voyez, c'est donc, en clair,
oui,
partout où
donc,
on fouille.
Une évolution dans le sens du rétrécissement.
Ouais.
Des
le sol
accès
est remonté de quasiment 1 mètre et les voies se sont rétrécies. Voilà.
Bon, eh bien, nous verrons à la prochaine émission, Jean-François, Sébastien, voilà combien la ville va évoluer encore.